Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Le retour de Tech & Co, la quotidienne, un grand merci d'être avec nous, toujours sur le plateau de Tech & Co ce soir. Frédéric Krebs, qui est président de Krebs & Partners et ancien patron d'Allociné, c'était il y a quelques années. André Losgood-Pietri est là aussi, président du Jedi, et Lucas Perraudin, le fondateur de AI Partners. Vous savez qu'on évoque souvent l'intelligence artificielle et on va dire toutes ces IA qui aspirent le web, et on évoque souvent en fait tout ce qui touche à l'écrit, les sites web de médias qui sont complètement avalés, on va dire digérés par l'IA. Mais il faut savoir que la musique, et on va dire d'une manière générale, tout ce qui touche à l'audio et vidéo, est aussi absorbé par l'intelligence artificielle aujourd'hui. Il faut savoir que par exemple, le modèle de Yann LeCun est très intéressant. Le world model de Yann LeCun, c'est ça. C'est non pas d'absorber de l'écrit, mais absorber de la vidéo et du son, pour fabriquer en fait une espèce de d'intelligence artificielle qui comprend son environnement et non pas qu'elle se base que sur l'écrit en fait. C'est tout le pari de Yann LeCun d'ailleurs qui est assez intéressant. On ne sait pas s'il va y arriver. Oui, Lucas.
Non, c'est une correction technique, mais ça.
Vas-y, je t'en prie. Moi, je le dis avec mes mots, mais vas-y, explique.
En fait, c'est pour que le modèle trouve lui-même les, qui comprenne le monde tout seul, qui trouve les règles de pourquoi deux choses sont similaires ou dissimilaires. Sans qu'on ait besoin de lui expliquer avec des protocoles d'entraînement. On lui dit ça, c'est un chat, photo de chat. Et puis 2000 photos de chat avec écrit chat. En fait, on lui montre des photos et le modèle doit déduire ce qu'il y a de similaire et donc en sortir un concept. En fait, c'est des modèles qui conceptualisent. Ça s'appelle des GEPA, Joint Embedding Probabilistique.
D'accord.
Voilà, bon, désolé.
Non, mais c'est pas désolé. Évidemment, c'est très intéressant. Mais ça va mettre du temps avant que ça arrive, tout ça. Et puis, enfin, ce que dit Yann LeCun, c'est que ça va complètement bouleverser la manière dont on va donner de l'intelligence, en fait, à de nouveaux objets. Pourquoi pas la robotique, notamment, parce que c'est vrai que la robotique pourrait être complètement décuplée en termes d'intelligence avec cette innovation. Ce qui est intéressant, c'est que là, c'est Winamp qui attaque, écoutez bien, Nvidia, parce que ben, justement, Winamp a une filiale qui s'appelle Jamendo, qui est spécialisée dans l'accompagnement des musiciens. Ils font la distribution, le marketing, la gestion des droits, etc. Et en fait, ils accusent Nvidia d'avoir pompé en fait tout leur contenu, finalement, sans leur avoir demandé l'autorisation. Une boîte comme ça, Winamp, qui attaque Nvidia, il faut quand même être téméraire, je trouve, pour le faire. Et je voulais avoir votre avis là-dessus. Légitime, évidemment, ce sujet, hein, de se dire, voilà, j'absorbe en fait tout ce contenu multimédia sur le web pour nourrir en fait toute mon IA, sans rétribuer évidemment des droits d'auteur et des sociétés. Ça pose quand même un problème qui commence sur ce sujet. André, allez.
Non, moi je trouve ça hyper intéressant parce que ça va vraiment tester si on peut utiliser des métadonnées, puisque c'est ça que met en avant Winamp, pour démontrer que en fait l'accès libre est différent de liberté totale d'entraîner ces données. C'est-à-dire que ça, il doit y avoir une rétribution à ceux qui ont créé ces données. Et ils font fort, parce que non seulement ils attaquent Nvidia, mais ils attaquent à la fois en Belgique, où ils sont localisés, et aux États-Unis. Donc, ils appliquent une méthode à l'américaine. On y va fort. On montre qu'on est solide. Et moi, je trouve que vraiment, là, il y a un point, parce que l'idée n'est pas de protéger, d'interdire l'utilisation des données, mais de le rétribuer. Il y avait aujourd'hui une réunion avec le président, avec la presse quotidienne régionale, ce qu'aujourd'hui la presse n'a pas réussi à faire par rapport au grand modèle qui aujourd'hui pille, il n'y a pas d'autre mot, le contenu qui est généré et qui fait que de plus en plus aujourd'hui la presse a du mal à justifier parce que la même information va se retrouver très très vite dans tel ou tel modèle. Donc ça va tester, et ça va déterminer en fait la manière dont la data va être utilisée. Donc quand on revient sur le sujet World Model dont on vient de parler, ça va peut-être aussi tester la capacité au grand modèle de langage de voir que les arbres ne vont pas monter au ciel, et on va se rendre compte à un moment que la donnée entraînée, labellisée, même industrielle, ou il y a une propriété intellectuelle type artistique, bah, elle a une valeur et qu'il faut la rétribuer.
Et en gros,
faut que Winamp réussisse sur ce coup-là.
Oui, il faut que Winamp.
C'est vraiment une jurisprudence qui va se déterminer par ça.
Ce qui est intéressant, c'est que visiblement les discussions était là avec Nvidia, mais Nvidia n'a pas cédé, n'a pas voulu, en fait. C'est pour ça que donc Winamp attaque finalement Nvidia, parce que Nvidia fait la sourde oreille. On parle quand même de pas mal de contenu, hein. Je crois que c'est 300 000 chansons, 60 000 artistes, et en fait c'est pas, alors ça va pas être Rihanna, Michael Jackson, etc. On va dire que c'est de la musique qui sert pour des films, des pubs, des vidéos sur les réseaux sociaux, des sites internet, etc., etc.
L'enjeu de ce procès, il est, c'est une jurisprudence, hein, c'est
ah
en
bah oui.
jurisprudence.
Là, il va avoir des avocats alors, costauds de chaque côté.
Hein. En anglais, on dit c'est une uphill battle, c'est une bataille en montée. Hein, donc, ils vont se prendre des vagues et des vagues d'avocats. C'est un peu la même chose que quand on fait de l'App Store avec Apple et que on va en appel, contre-appel, feinte, voilà, toutes ces feintes de corps, passement de jambes, tous ces trucs-là. Donc là, il faut s'attendre à une bataille monstrueuse. Alors, vont-ils arriver à une jurisprudence? Je sais pas. Après, il y a un autre problème qui est assez fondamental, c'est que d'abord, toute la donnée qui pouvait être aspirée, elle a été aspirée, et que la donnée marginale, incrémentale, elle est relativement faible par rapport au tout le quorum de données qui a déjà été exploité. On parle des modèles de langage. À la fin de la journée, les modèles de langage type LLM Transformer, on arrive à la fin, on prend des mots, on les coupe en petits morceaux, et puis on probabilistiquement les mélange. Oui. Bon. Ça nous emmènera pas beaucoup plus loin, et tout ce que ça pouvait exploiter comme données, ça a déjà été fait. Donc, quelque part, cette bataille-là, elle peut servir pour la prochaine vague de modèles, la prochaine vague de données. Est-ce que rétroactivement, ils vont en récupérer la valeur qu'ils ont perdue? Ça va être extrêmement difficile.
Mais comme ils attaquent aux États-Unis, c'est le sujet des damages. En fait, ils visent aussi la compensation pour ce qui a été fait, ce qui ne serait pas du tout le cas en Europe.
Ouais. Parce que ça, c'est assez... Ouais, est-ce que c'est pas compliqué à prouver, ça?
C'est dur à prouver, et tous les gens qu'ils attaquent sont américains avec des intérêts forts dans le pays. Donc, il faut s'attendre à ce que le chemin soit long, difficile et avec beaucoup de sang et de sueur.
Il y a eu tout un débat dans notre pays sur une toute affaire sur la lenteur de la justice. Là, on parlait de la régulation sur le droit de la concurrence qui ne doit pas être en retard par rapport aux grandes manœuvres sur les plateformes de streaming. Là, la même chose. Aujourd'hui, la lenteur de la justice profite aux gros.
Évidemment.
Ils se disent,
évidemment.
Bon, on va faire traîner. Ouais. Et on va épuiser nos...
Et puis dans 5 ans, ils disent, voilà, on aura peut-être un jugement définitif dans 5 ans.
C'est un sujet fondamental.
On ne sait même pas où on sera dans 5 ans, dans ce domaine de l'IA.
On est qu'au début, là. Enfin, entre la rupture technologique et ce procès-là, là, je veux dire, il y a encore beaucoup de choses à processer.
Avant de donner la parole à Fred, juste, je recevrai Alexandre Sabounjian jeudi soir, qui est le CEO de Winamp. Il sera sur notre plateau. Il va nous expliquer clairement pourquoi il attaque Nvidia. Donc, jeudi soir, dans Tech & Co.
Go, Alexandre.
Ce sera aux alentours des 20h15, quelque chose comme ça. Oui, Fred.
Non, juste un très petit commentaire. Je suis pas un spécialiste des affaires juridiques, mais je crois savoir que le montant du préjudice tourne autour des 16 millions de dollars. 16 millions de dollars.
16 millions de dollars, c'est quoi? C'est une seconde de chiffre d'affaires de Nvidia.
Il y aura plus de frais d'avocat que de frais de préjudice.
Mais c'est clair, évidemment.
Ouais. Donc, pense que...
C'est sûr.
Oui, mais c'est symbolique.
Oui. Enfin, c'est une jurisprudence.
C'est symbolique.
C'est briser un mur, là.
Et, voilà. Et Winamp s'engage, en fait, pour tout l'écosystème. C'est là où, en fait, il faut véritablement voir le truc. C'est que, effectivement, leur intérêt à eux, probablement, est pas très important. Parce que ça va leur coûter cher, ça, c'est sûr.
Ça va durer longtemps.
Ça va prendre du temps de management, etc.
Bon, on en saura plus, donc, avec le CEO de Winamp, jeudi soir. Ça sera plutôt aux alentours des 20h45, et non pas 20h15. J'aimerais qu'on reste dans ce domaine de la propriété intellectuelle, avec un truc qui est en train de se passer qui est énorme. C'est vrai que l'IA rebat totalement les cartes dans le domaine des logiciels, notamment. Prenez le cas de Bain & Company. C'est l'un des plus grands cabinets de conseil au monde en fusion-acquisition. Ils utilisent l'IA pour copier grossièrement des softwares, carrément, et ainsi rendre compte à ses clients de la pertinence ou non de racheter ces derniers. Nathan Cocampo nous explique tout ça, et après, on vous raconte cette histoire qui est incroyable.
Peut-on copier rapidement et facilement ce logiciel avec l'IA? C'est désormais la logique de Bain & Company quand un produit se montre intéressant pour ses clients. À l'aide de l'intelligence artificielle, le cabinet de conseil mobilise ses membres pour faire ce qu'on appelle du vibe coding. Une technique de codage sans coder. À l'aide de prompts et l'IA générative, les consultants de Bain ont créé des centaines de prototypes, des bêtas très simples pour évaluer la complexité des produits visés. Si ces logiciels sont imitables en un temps court, sans trop de difficultés, Bain suggère alors de passer son tour sur un achat. À l'inverse, la difficulté à copier le logiciel montre l'avantage concurrentiel que son code, sa technologie peut avoir. Mais à l'arrivée, le business model des éditeurs de logiciels est remis en cause et les investisseurs se montrent prudents. 20% d'entre eux indiquent à Bain avoir abandonné un deal par peur de cet impact de l'IA sur le secteur. Tout cela sur fond de fort repli en bourse.
Alors évidemment, on va prendre le temps parce que c'est pas que c'est compliqué, mais il faut bien expliquer tout cela. On donnera la parole à Fred et à André parce que j'imagine que vous avez plein de choses à raconter. Mais j'aimerais, Lucas, parce que c'est ton métier en quelque sorte, que tu nous expliques tout ça. Moi, j'ai entendu un témoignage d'un gars qui est pas un codeur exceptionnel, qui grâce à Claude aujourd'hui arrive à copier des logiciels qui existent, n'importe quoi. Et après, se servir de la copie qui a été faite par l'IA, et non pas de l'original. Ce qui fait que toutes les licences que vous payiez auparavant, bah vous ne les payez plus, parce que vous dites à Claude, bah fais-moi ce logiciel d'une manière un peu différente, tu me le reprogrammes, et bah comme ça je l'ai gratuitement.
Ouais, et ce phénomène, il porte un nom, il s'appelle SaaSpocalypse. C'est l'apocalypse.
Après la RAMpocalypse, c'est la SaaSpocalypse.
Vraiment, et c'est pour ça que les valorisations. Et là, il y a vraiment deux choses. D'abord, il y a tout ce qui faisait ce qu'on appelle le moat, donc les avantages concurrentiels des éditeurs de logiciels, la difficulté d'avoir accès à des ressources de développement, la bonne compréhension des processus de l'entreprise, l'effet de réseau, plus j'ai d'utilisateurs. C'est un peu difficile de devenir spécialiste dans une entreprise lambda de SAP, de Salesforce.com. Donc il y avait beaucoup de temps pour former les gens, et donc en sortir, il y avait un coup de sortie qui était très fort. Et donc déjà, ce qui se passe aujourd'hui avec l'agentique, c'est que sans recopier le logiciel, on peut avoir les mêmes fonctions, mais de manière très personnalisée. On n'a pas besoin d'attendre la prochaine release de SAP. On n'a pas besoin de... Alors, en gros, moi, comme j'ai passé beaucoup de temps dans l'Amérique corporate, j'étais chez HP et chez Meta, des SaaS, j'en ai acheté. Les SaaS, et le sales rep, il vient et vous dit, ça va coûter 50 millions, ça va prendre 3 ans et ça va faire ces 5 choses. Et en fait, ça coûte 150 millions, ça prend 9 ans et ça fait 3 choses sur les 5. Oui, j'ai fait Business Object, SAP, Magento, je les ai tous faits, Salesforce.com, tout ce que...
Ton expérience, en fait, il promet des choses qui ne tiennent pas, ça coûte beaucoup plus cher et ça met plus de temps.
Et c'est parce que fonctionnellement, vous, quand vous avez une entreprise qui est complexe, comme celle dans laquelle j'ai travaillé, vos processus, le software ne peut pas venir se poser sur vos processus. Vous êtes toujours obligé, le software va faire 50% de vos process et vous devez construire des trucs à côté. Avec
après,
des
c'est du sur-mesure.
Avec des Excel, etc. Oui, mais ces logiciels-là, ils ne sont pas faits pour mesure. Ouais. L'agentique, c'est sur-mesure, c'est un software d'entreprise pour votre besoin, votre façon de travailler. Et puis, si vous voulez changer la façon de travailler, vous n'attendez pas la prochaine release, vous allez changer de contexte. Donc, il y a une plus grande autonomie par rapport à ça. Donc déjà, ça, c'est enlever de la valeur. Mais ça ne veut pas dire que les logiciels disparaissent, mais le marché adressable du logiciel, il est en train de fondre à vue d'œil. Et ensuite, dans ceux qui développent des logiciels, on se dit effectivement, comme on est en train de le dire, en plus, si je demande à un assistant de coding de le faire, donc, en fait, il y a cette ressource qui est extrêmement chère, c'est-à-dire d'avoir des gens qui étaient capables de fabriquer des logiciels par rapport à mes besoins. Je leur expliquais mes besoins et fabriquer un logiciel. Ça prenait longtemps, ça coûtait extrêmement cher. Ben maintenant, ça prend quelques minutes, quelques heures. Et donc, cette barrière-là, elle est tombée. Et donc, maintenant, quand on veut racheter des sociétés, on se dit, ben, est-ce que je pourrais le faire ? Et là, ça n'est que des consultants de Bain qui font du vibe coding. Parce que si on vous met des ingénieurs IA qui font pas du vibe coding, mais du vrai coding et qui utilisent Claude Code et Codex correctement, je peux vous dire que la barrière que Bain a vue de pas acheter, elle est x2, x3, et il reste beaucoup moins de logiciels. Donc il y a toujours des logiciels, il y en a toujours besoin, transactionnellement. Ces logiciels, ils seront plutôt cachés derrière des agents qui vont aller les interroger. C'est-à-dire que les utilisateurs les voient de moins en moins. On va avoir une conversation avec un agent, l'agent va aller chercher l'information dans le logiciel, la ramener à l'utilisateur, la transformer. Donc il y a une intermédiation qui est en train de se faire aussi. Ouais. Donc ça, c'est vraiment, bon, c'est un peu compliqué, mais ce mouvement-là dans le SaaS, il est gigantesque. Il y a vraiment des empires qui sont en train de se faire et de se défaire en ce moment. Ben, on a vu Salesforce.com, par exemple, qui a très vite, le patron a dit, quand il a vu les agents, ben, on se parle il y a 2 ans et demi, il a dit, on n'est plus une boîte de software, on est une boîte d'agents. Ça s'appelle Agentforce, parce qu'il a compris que les plaques étaient en train de bouger sous ses pieds, quoi, littéralement. Bon, la transformation, je ne sais pas si ça va aller assez vite pour qu'il puisse...
Mais je trouve qu'il y a un point commun avec le précédent sujet, finalement. Parce qu'on peut se dire que l'IA de Claude qui va faire du vibe coding et créer un logiciel qui va ressembler à un logiciel de Salesforce, par exemple...
Ça va être même plus adapté à ton besoin que si tu avais acheté Salesforce. Donc, c'est encore plus customisé.
C'est ça. Et il va sans doute s'inspirer de Salesforce, mais un jour, il va avoir des procès partout, finalement, non ?
Ouais, mais les bases de code, c'est largement disponible. Enfin, oui. Mais là, pour aller détricoter comment est-ce que le logiciel a créé ça, ça va être très compliqué.
André, impressionnant ça. Hein,
oui, oui, non, mais c'est vraiment la SaaS-apocalypse.
Moi, j'imagine une boîte comme Adobe, par exemple. Ça, ça va être terrible.
Ah, bah, Adobe, alors, Salesforce, SAP, comme... ServiceNow.
C'est comme une magnifique opportunité de rebattre les cartes. Je veux dire, aujourd'hui, les grands éditeurs de logiciels étaient quand même essentiellement américains. Donc là, la question, c'est quels vont être les nouveaux empires qui vont se créer.
Est-ce qu'il va rester des éditeurs de logiciels à terme,
c'est ça, ben, en tout cas, la valeur, d'abord, c'est la preuve par neuf que l'IA est en train complètement de changer la valeur du logiciel. Et donc, ça va migrer vers des choses qui sont difficilement réplicables. Les workflows, les relations clients, la connaissance métier. Donc ça va être ceux qui maîtrisent cette partie-là, celle qui sera pas réplicable, vont avoir une valeur probablement encore plus importante parce qu'effectivement, comme le disait Lucas, on va pouvoir faire en plus des logiciels qui sont beaucoup plus adaptés à chaque process, à chaque et qu'on va pouvoir faire évoluer parce que de plus en plus les organisations évoluent de plus en plus vite. Donc on va devoir et faire évoluer des logiciels qui ne vont plus... le rythme de changement, il ne va pas au rythme des releases, surtout pour des grandes... Donc en fait, ça va accentuer l'accélération des processus, mais ça va aussi permettre de voir où est la vraie valeur. Et je pense que là, pour le coup, la valeur, elle va plutôt revenir vers des gens qui maîtrisent... voilà, comme je dis, la donnée métier, les workflows, enfin des choses difficilement réplicables. Je crois que les industriels ont bien fait d'être extrêmement précautionnés sur les données qu'ils livraient, parce que pour le coup, on va pouvoir faire des logiciels sur mesure.
Fred.
Donc moi, ce qui m'intéressait là dans cette info, c'est que c'est tout le travail en fait, parce qu'il faut se rendre compte que Bain, les clients de Bain, ce sont les fonds d'investissement, c'est ceux qui font du M&A, hein, mergers and acquisitions, et ils sont déjà en train de changer ce métier-là, hein, le métier de d'investisseur quelque part. Alors, il faut pas oublier un truc quand même, parce que quand ces investisseurs demandent à Bain, tiens, fais-moi une due diligence sur telle boîte qu'on est sur le point sur lequel on est sur le point d'investir. Bain, en essayant de répliquer, de cloner en fait la boîte en question, enfin le produit de la boîte en question, il ne répond qu'à une partie du problème. Parce que, ok, ils réussissent à refaire un produit, fine. Mais en fait, c'est tout le reste qui est important. Et là, je rejoins ce que tu viens de dire à l'instant. C'est les données propriétaires, elles sont où? Les données de workflow, elles sont où? Les process, où est-ce qu'elle est la véritable intelligence? Typiquement, si moi aujourd'hui, je prends Claude et j'essaie de refaire Uber. Ben oui, je peux refaire Uber. Je peux refaire l'interface d'Uber, mais je serai jamais... une réussite comme Uber, parce que j'ai pas l'accès au parc de chauffeurs, j'ai pas l'accès à toute la partie juridique, hein, parce qu'en fait Uber a déployé en fait des forces juridiques dans chaque pays, dans chaque
ville.
Ouais,
mais regarde par exemple, excuse-moi, je te coupe, tu as un logiciel de compta qui est hyper pointu, que tu payes une fortune parce que il y a très peu d'éditeurs de logiciels qui font ce soft pour toi, parce que t'as un métier bien précis. Si demain t'as une IA qui va te cloner ce logiciel et qui va te permettre de l'utiliser de manière complètement gratuite. C'est pas la même chose.
Alors, il y a une chose, hein, c'est de faire la V0, la première version en fait du logiciel, mais après il y a la maintenance. Parce que après il y a des choses, enfin souvent l'IA,
je sais pas, mais est-ce que l'IA fait pas la maintenance aussi?
C'est vrai qu'il y a des barrières d'entrée et que tout n'est pas aussi simple. Et ce qui était dit, alors pour vraiment le vivre au jour le jour avec des grands groupes, nous c'est littéralement ce qu'on fait, c'est la capacité à comprendre un objectif business, qu'est-ce qu'on essaie de produire avec le business, où sont mes sources de données et quelle est ma logique de réflexion. Si je suis capable de comprendre ça et de le mettre dans un flux, dans un agent et pas dans un logiciel, je gagne à tous les coups. Parce que en gros, je fais quelque chose qui correspond exactement à la façon de travailler de l'entreprise et en plus quand l'entreprise va bouger, qui est modulaire. Qui n'est pas monolithique comme un logiciel qui a des cycles de release qui sont... On parle souvent de AI speed versus human speed. Donc l'agent, il va à la vitesse de l'IA et le logiciel, il va à la vitesse de l'humain. Donc ça, c'est là, on gagne. La bonne nouvelle, c'est que ça multiplie la demande de logiciels. Parce que si aujourd'hui, je suis Essilor, j'ai besoin de mon propre logiciel pour mon propre processus, je suis Saint-Gobain, je suis Orange, je suis Péchy, je suis qui vous voulez, et ben à un moment... je vais pouvoir développer ma propre pratique logicielle interne. Et donc, on a ce qu'on appelle des pratiques agentiques qui sont en train de se monter, où on a des équipes qui savent fabriquer des agents en interne. Et ça fait qu'ils achètent beaucoup moins de licences des logiciels sous-jacents. Mais par contre, il y a du travail, il y a énormément de travail à fabriquer toutes ces choses-là, à les maintenir, à les faire évoluer. Donc c'est créateur d'emplois et la demande de logiciels et de code, elle explose. On croit que les codeurs ont plus de jobs. Moi, tous les codeurs que je connais, y compris ceux qui travaillent pour moi, et j'en recrute beaucoup, ils ont plus de travail avec l'IA qu'avant l'IA. Parce que maintenant, leur niveau de productivité, le niveau de demande, le niveau de personnalisation de ce qu'ils produisent, il est exponentiellement plus élevé.
Après, il y a une notion d'architecte. De plus en plus des architectes dont on va avoir besoin et qui connaissent bien les
processus. Interopérabilité, maintenance dans le temps, toutes ces choses-là.
Et l'autre question, c'est on a eu pendant longtemps, finalement, un outsourcing complet vers des sociétés de logiciels. Je pense qu'en t'écoutant, il va y avoir aussi une internalisation de ces fonctions parce que ça devient clé pour optimiser les processus. On n'a surtout pas envie de le déléguer à l'extérieur.
C'est la sauce secrète qu'on va internaliser et automatiser.
Passionnant en tout cas ce sujet. Et on n'en est qu'au tout début de la frise chronologique, c'est ça qui est dingue.
Si tu peux me déléguer quelques-uns de tes trucs, ça m'intéresse. Moi aussi, je suis en train d'internaliser.
Mais écoutez, dans 5 minutes, vous allez pouvoir discuter en antenne sur tous ces sujets sans aucun problème. J'aimerais qu'on évoque, allez, il nous reste quelques instants, cette initiative, en tout cas cette volonté. Ça a été annoncé par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Une date pour introduire des cours d'IA au lycée. Alors, quand je dis des cours, c'est une heure de cours par semaine, à partir de la seconde. Ça commencerait à la rentrée 2027, et je voulais avoir vite fait votre avis là-dessus. Tarte à la crème, ou est-ce que, véritablement, c'est une très bonne idée, ça aurait dû être fait depuis des années, quel est votre point de vue? Tiens, André.
Alors moi, je trouve l'idée est quand même très bonne et très habile.
Je trouve que c'est une très bonne idée aussi.
Et très habile parce que, en plus, on fait passer le message, on veut pas juste les entraîner à utiliser l'IA, mais on veut développer une capacité justement d'architecte. Donc il y a cette notion sous-jacente d'esprit critique.
Etc. De dompter l'IA et non plus d'être, absolument, on va dire, une espèce de vassal.
L'honnête homme ou l'honnête femme du 21e siècle.
C'est ça.
Donc je suis sûr qu'il va y avoir certains qui vont dire ça y est, c'est les lumières réappliquées à l'éducation nationale. Après, le défi, comme toujours chez nous en France, c'est le décalage. Le risque de décalage entre grande annonce et exécution, surtout dans un contexte où il n'y a déjà pas beaucoup d'heures de sciences et technologies. Donc, est-ce que ça va être en concurrence avec les cours de maths, de physique, de codage? Je ne sais pas. Donc, l'exécution va être clé. Donc, les attentes sont là.
Fred, et après Lucas.
Moi, je salue l'initiative, évidemment. Par contre, je pense que c'est peut-être pas la meilleure façon de le faire. Parce que là, ça va être cantonné, donc une heure par semaine. On va dire c'est un bon début, mais c'est pas suffisant par rapport à l'enjeu.
Enfin, ça fait quand même 40, je sais pas quoi, ça fera faire 40 heures, quoi, à peu près. Ou
30... C'est ça, bon, un peu moins.
On peut en dire, des choses, mais c'est pas mal quand même.
Moi, ce que j'aurais trouvé vraiment intéressant, c'est d'injecter des cours d'IA, enfin des cours d'IA, des heures d'IA au sein même des cours principaux. Français, maths, histoire géo, physique, etc. Là, j'aurais trouvé en fait un terrain de jeu qui aurait été beaucoup plus intéressant encore, parce que c'est ça le vrai sujet. C'est que j'ai mon fils qui rentre de Chine, il a 16 ans, il a fait un truc, enfin il a découvert en fait ce que c'était qu'une nation entière qui a compris exactement l'impact de la technologie et l'impact positif de la technologie. Et c'est pas juste un vœu pieux ou un délire, il est revenu enthousiaste du truc parce que il s'est dit ah oui, j'ai compris ce que c'était que l'IA pour telle chose et c'est ça. Et je pense que aujourd'hui il faut embrasser cette techno, je pense qu'on peut pas reculer, on peut plus reculer. Parce que le monde entier, en fait, y va, et je pense qu'il y a de très bonnes choses, en fait, à en retirer. Et donc, il faut que ça infuse dans tous les cours que peut avoir, en fait.
Au lieu d'avoir une heure, bête, toutes les semaines, ça aurait été bien d'en parler, en fait, dans chaque matière.
C'est ça.
Et dire comment utiliser cette IA.
Au lieu d'avoir un ministre de l'IA, on devrait avoir un peu d'IA dans tous les ministères.
C'est ça.
C'est la technologie transversale par définition.
Exactement.
Tu as tout à fait raison.
Lucas.
C'est une excellente initiative. L'IA, c'est une force inarrêtable qui a déjà fait son chemin dans tous les lycées, les collèges, les universités de France. Oui. Nous, on embauche des ingénieurs qui sont IA natifs, c'est-à-dire qu'ils pensent comment résoudre mes problèmes d'éducation ou ce que je dois faire avec l'IA déjà. Le diable est dans les détails. On ouvre cette fenêtre, il faut qu'il y ait le bon contenu dans cette fenêtre. Pas comment s'en servir, mais comment ça marche. quels sont les biais, qu'est-ce que l'IA peut faire et qu'est-ce que l'IA peut pas faire, et comment avoir une meilleure collaboration avec l'IA à l'avenir et en garder un esprit critique, ça va être fondamental. Voilà, donc la fenêtre est bonne, l'intention est bonne, l'exécution, comme vous l'avez dit, c'est important, mais c'est une force inarrêtable qui est déjà dans l'air qu'on respire, donc c'est important de le faire.
Ouais. Une petite heure aussi concernant les réseaux sociaux à partir du collège, ça serait une bonne idée.
J'allais le dire, on aurait dû le faire avec les réseaux sociaux.
Ouais.
On aurait peut-être
plus jeune, plus tôt, ouais. Je pense.
On a trop attendu pour
à
les réseaux.
À partir de la sixième. Ouais. L'IA à partir de la seconde, c'est bien, mais je pense qu'il aurait fallu aussi avoir une heure sur les réseaux sociaux pour sensibiliser tous les jeunes à ce fléau, car c'est un fléau quand même. Merci beaucoup à tous les trois. Voilà, passionnant débrief. Merci à Lucas Perraudin. Lucas Perraudin, fondateur de AI Market. AI to Market, pardon. Je suis obligé de lire ton t-shirt pour bien te présenter.
Merci. T'as des bonnes lunettes correctrices.
Ça fait ATM, c'est bien. ATM.
ATM. Merci à André Lochegut-Pretry, évidemment, le président du Jedi, et Frédéric Krebs. Merci à toi, Fred, président de Krebs and Partners.